La raison pour laquelle nous croyons à l'inspiration de l'Écriture est si simple que le plus humble enfant de Dieu peut la comprendre. Si notre motif ne se fondait que sur la sagesse qu'on trouve dans ce livre, les ignorants ne pourraient arriver à la foi. Mais nous croyons à sa divine origine parce que nous ne trouvons rien en lui qui ne puisse venir de Dieu. Dieu est sage et il est bon. Tout dans la Bible porte le sceau de la sagesse et de la bonté. Si quelque chose en elle était opposé à la raison ou à notre sens moral, nous pourrions penser peut-être que ce livre est semblable à tous ceux que les hommes ont écrits. Les écrits des hommes contiennent, comme leur vie, bien des absurdités et bien des choses mauvaises. La vie de Christ seul a été parfaitement pure, divine et humaine comme elle l'était. Aucun des livres qui prétendent à une divine origine, comme le Coran, par exemple, ne porte le cachet du bon sens, tandis que dans la Bible, tout est conforme au bon sens. Ce qu'elle nous raconte d'un déluge qui a détruit le monde et de Noé sauvé seul avec sa famille n'est pas plus étrange que l'enseignement donné dans nos écoles qui affirme que tout est sorti d'un globe de feu. N'est-il pas plus facile de croire que l'homme a été créé à l'image de Dieu que d'ajouter foi à l'idée qu'on essaie d'inculquer dans l'esprit de notre jeunesse que nous provenons d'un singe? La Bible, comme toutes les œuvres merveilleuses de Dieu, porte l'empreinte visible de son auteur, elle lui ressemble. L'homme sème et Dieu fait épanouir des fleurs parfaitement belles comme lui. La main de l'homme a écrit la Bible, mais la Bible est l'œuvre de Dieu. En général, les natures les plus cultivées sont celles qui aiment le plus les fleurs et les meilleures d'entre les hommes sont ceux qui aiment le plus la Bible. Le goût des fleurs élève le niveau moral et l'amour pour la Bible rend meilleur. Tout ce que la Bible dit de Dieu, de l'homme, de la rédemption et de la vie future s'accorde admirablement avec les idées que nous nous faisons de ce qui est juste, avec nos raisonnables appréhensions et avec notre expérience personnelle. Les événements historiques y sont racontés de manière à nous les montrer tels qu'on avait l'habitude de les considérer au moment où ils furent écrits. Ce que la Bible nous dit du ciel n'est pas la moitié aussi étrange que les descriptions que fait monsieur Proctor des myriades d'étoiles qui ne peuvent être aperçues par aucun de nos télescopes. Pourtant, l'opinion générale est que la science ne repose que sur des faits, tandis que la religion n'est que le pur effet de notre imagination. Combien de personnes qui admettent sans hésiter que Jupiter et d'autres planètes sont habitées ne peuvent se résoudre à croire qu'au-delà de cette terre, les âmes peuvent avoir une vie immortelle. Le vrai chrétien place la foi avant la raison et pense que celle-ci se trompe toujours quand elle répudie la foi. Si les hommes consentaient seulement à étudier davantage ce que la Bible dit du ciel, ils ne seraient pas aussi attachés au monde, leur cœur s'affectionnerait aux choses invisibles et aux biens célestes et impérissables. Le péché existe sur la terre? Il est très naturel de supposer que Dieu ait voulu nous donner quelque aperçu de l'avenir. Nous perdons successivement nos amis et, quand ils sont morts, la première pensée qui nous vient est celle-ci: où sont-ils allés? Nous nous demandons avec anxiété si nous pourrons les revoir, dans quel lieu et à quel moment. Alors nous prenons notre Bible, car nul autre livre dans le monde ne peut nous donner la moindre consolation à ce sujet, aucun ne peut nous dire où nos bien-aimés sont allés. Je rencontrais, il y a peu de temps, un de mes bons vieux amis. Je lui pris la main pour lui demander des nouvelles de sa famille, et je vis aussitôt des larmes couler le long de ses joues. « Je n'ai maintenant plus de famille, » me dit-il. « Quoi? Votre femme est morte ?»« Oui, monsieur. »« Et tous vos enfants aussi ?»« Oui, tous partis. Et je suis restée seule avec ma douleur. »« Qui voudrait enlever à cet homme l'espoir de rejoindre un jour ceux qu'il a tant aimés ?»« Qui oserait lui persuader qu'il ne les reverra plus jamais ?»« Non. » Il n'est nullement nécessaire d'oublier les êtres chers qui nous ont devancés, bien au contraire, nous pouvons saisir fermement l'espérance qu'un jour viendra où nous nous retrouverons, libres de toute chaîne et bienheureux dans les lieux célestes, où brille une éternelle lumière et où les âmes s'abreuvent à cette source de l'amour suprême qui sort du trône de Dieu. Dans le fond de nos âmes, nous nous sommes tous demandé s'il y a une vie à venir. Parle de lui, de réelle espérance, dis à mon cœur, dis s'il existe un lieu où le péché, la mort et la souffrance ne pourront plus me séparer de Dieu. Existe-t-il une heureuse patrie, où des mortels pourront être reçus, où de ces maux l'âme sera guérie, où le repos attend les cœurs déçus? Oui, c'est la foi, l'amour et l'espérance, c'est bien si doux que Dieu nous a donné, qui rompent seul ce douloureux silence, pour dire à toi les cieux sont destinés. Vous rencontrez des personnes qui prétendent qu'il n'y a point de ciel. Un homme me soutenait un jour que rien ne pouvait nous démontrer qu'il existait un autre paradis que celui que nous pouvons nous créer sur la terre. Si nous n'en avons pas un meilleur, il faut avouer que ce monde, si rempli de souffrances et de péchés, est un étrange ciel. Je plains du fond de mon cœur celui qui a une pareille idée. Ce monde, que quelques-uns prennent pour un ciel, est le lieu où le péché habite, où toutes les douleurs ont leur rendez-vous, où rien ne peut satisfaire les besoins de nos âmes. Les hommes le parcourent en tous sens, ils désirent même aller au-delà, mais plus ils connaissent ce qui s'y passe, plus dégoûtés ils en sont. On est bientôt lassé des plaisirs les plus attrayants qu'il offre, il ressemble à une mer orageuse, a-t-on dit, dont chaque vague porte les restes de ceux qui y ont péri. Toutes les fois que notre poitrine respire, quelqu'un sur la terre a cessé de vivre. Nous savons tous que notre existence ici-bas sera courte, elle n'est qu'une vapeur qui s'évanouit, une ombre qui passe. Quelqu'un a dit on se rencontre, on se salue, on passe son chemin et l'on disparaît. La vie n'a qu'un pouce de durée, puis les siècles reprennent leur cours. Il est donc parfaitement raisonnable d'étudier notre Bible pour savoir où nous allons et où sont nos amis partis avant nous. La vie la plus longue comparée à l'éternité n'est qu'une goutte dans l'océan des âges. Les villes de l'Antiquité. Que sont-elles devenues? Où est Babylone la Grande? On dit qu'elle fut fondée par la reine Sémiramis qui, durant des années, employa 2 millions d'hommes pour la bâtir. Il y a 1000 ans environ, un historien écrivait que les ruines du palais de Nebuchadnezzar étaient encore debout, mais que nul n'osait s'en approcher à cause de la quantité de scorpions et de serpents qui y faisaient leur gîte. Il ne reste plus d'elle aujourd'hui aucun vestige. Ninive aussi a disparu. Ses tours et ses bastions se sont écroulés. Le voyageur ne trouve que peu de restes de Carthage. Corinthe, où florissaient autrefois les arrêtants de luxe, n'est plus qu'une masse informe. Éphèse, qui fut si longtemps la métropole de l'Asie, le Paris des temps modernes, dont les édifices étaient aussi élevés que le Capitole à Washington, ne ressemble plus guère qu'à un cimetière abandonné. La ville de Grenade, si élégante avec ses 12 portes, ses tours et son palais de l'Alhambra, est maintenant toute délabrée. On vend comme des reliques les petites pièces de monnaie des grandes villes d'Herculanum et de Pompéi. Jérusalem, qui fut la joie de toute la terre, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Thèbes, qui, jusqu'à la venue du Christ, fut la plus grande et la plus riche cité du monde, n'est qu'un tas de décombres. Ce qui reste encore debout de l'ancienne Athènes et de tant d'autres orgueilleuses villes de l'Antiquité suffit à peine pour nous dire l'histoire de leur décadence. Dieu a fait passer sur elles sa charrue et les a bouleversées comme la surface d'un champ. Ésaïe 49, 15-17 Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Voyez jusqu'à quel point est tombé Antioche Campo Liprèche A, c'était une superbe métropole traversée par une rue de 5 km ornée de colonnades et de galeries couvertes. À chaque coin, on voyait les statues de ces grands hommes dont on ne parle plus, tandis que le pauvre artisan prédicateur, qui a passé sous ces magnifiques portiques, est resté debout comme le plus grand personnage de l'histoire. L'art grec avait fourni aux autels des temples d'Antioche ses plus belles décorations, aujourd'hui encore, rien ne peut être comparé à ses bains et à ses aqueducs. Les hommes d'alors, comme nos contemporains, recherchaient la fortune, la renommée et gravaient leurs noms et leurs souvenirs sur de l'argile périssable. Dans l'enceinte de ces murs se trouvaient des collines de plus de 700 pieds, des précipices rocheux et de profonds ravins, ce qui donnait à cette cité un caractère pittoresque et sauvage qui ne se rencontre dans aucune de nos villes modernes. Ces collines étaient admirablement fortifiées, ce qui leur donnait un aspect sévère et redoutable. L'immense population de cette brillante cité était adonnée au plaisir tout autant que le sont celles de nos capitales. L'art de la savante Grèce se rencontrait là avec la légèreté et l'amour du luxe de la superstitieuse Asie. Les citoyens jouissaient des spectacles, des jeux, des courses et des danses. Ils avaient leurs sorciers, leurs acrobates, leurs bouffons et leurs prestidigitateurs. Ils cherchaient tous ainsi à exciter et à satisfaire les désirs les plus corrompus de la nature humaine. C'est justement ce que font les masses populaires, encore aujourd'hui dans nos grandes villes. Antioche était descendu plus bas qu'Athènes, car les passions les plus grossières étaient alimentées même par son culte idolâtre. C'est là que Paul vint prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est là que les disciples furent pour la première fois appelés chrétiens, auparavant ils se nommaient saints ou frères. On dit que c'est d'Antioche que la source du christianisme a jailli comme un puissant fleuve qui a arrosé le monde. Astarté, la reine des cieux, adorée dans cette ville, Diane, Apollon, les pharisiens et les sadducéens ne sont plus, mais les chrétiens tant méprisés subsistent encore. Elle est tombée cette cité païenne qui n'a pas voulu s'attacher au christianisme et le retenir dans son sein. Toutes les villes qui n'ont pas été placées sous son austère et pure influence d'une manière complète n'ont pas eu de gloire durable, à la lumière des siècles, on les a vues s'éteindre peu à peu. Un petit nombre de nos villes d'Amérique ont à peine 100 années d'existence, tandis qu'Antioche, qui a prospéré près d'un millier d'années, est tombée. Sur le point d'émigrer. Je ne crois pas que ce soit mal de penser au ciel ni d'en parler. Je suis bien aise de savoir où se trouve ce ciel et tout ce qui peut s'y rapporter, car j'espère l'habiter durant toute l'éternité. Si je devais faire ma résidence dans une ville étrangère, la première chose que je ferais, ce serait de m'informer de l'endroit où elle se trouve, de son climat, des personnes auprès desquelles je devrais vivre, en un mot, de tout ce qui la concerne. Si l'un d'entre nous était sur le point d'émigrer, ce serait justement là ce qu'il ferait. Or, nous allons tous partir pour un pays fort éloigné, nous devons passer l'éternité dans un autre monde, le monde grand et glorieux où Dieu règne. N'est-il pas dès lors urgent pour nous de faire tous nos efforts pour savoir par qui il est habité et par quel chemin on y arrive? Peu de temps après ma conversion, un incrédule me demanda pourquoi je levais les yeux en haut pendant que le priait. Le ciel, pensait-il, est partout, pas mieux en haut qu'en bas. J'avoue que cette question me troubla profondément et que la première fois que je priais après cet entretien, il me semblait que mes paroles se perdaient dans les airs. Depuis lors, j'ai beaucoup mieux étudié ma Bible et je suis arrivé à cette conviction que le ciel est au-dessus de nous et non pas en bas. L'Esprit de Dieu est partout, mais Dieu est dans le ciel, n'importe quel point du globe nous habitons, le ciel est toujours au-dessus de nos têtes. Dans Genèse 17, il est dit que Dieu s'éleva en quittant Abraham. Dans Jean 3, nous lisons que le Fils de l'homme est descendu du ciel et, dans les Actes, que Jésus fut élevé au ciel et qu'une nuée le déroba aux yeux des disciples. Le ciel est donc en haut. Le firmament lui-même, qui s'étend au-dessus de nos têtes, montre que le siège de la gloire de Dieu est au-dessus de nous. Job demandait que Dieu ne regardât pas d'en haut. Deutéronome 30, 12, il n'est pas dans le ciel, pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Psaume 113, saint qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Il a sa demeure en haut. Toute l'Écriture nous le représente comme se trouvant au-dessus du firmament. Le ciel étoilé est lui-même si vaste que celui où Dieu habite doit être un royaume d'une immense étendue, et pourquoi nous en étonner? Ce n'est pas à des êtres comme nous, dont la vue est bornée, à demander pour quel motif Dieu a fait le ciel tellement grand que les astres qui l'éclairent sont visibles de toutes les parties de notre petit globe. Jérémie 51, Quand il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Nous savons pourtant bien peu de choses sur cette puissance, cette sagesse et cette intelligence. Job 26, 14. Ce sont là les bords de ses voies, c'est le bruit léger qui nous en parvient, mais qui y entendra le tonnerre de sa puissance? Esaïe 42, 5. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent? Ce n'est pas toujours par le moyen des grandes choses qu'on discerne la puissance de Dieu et que les messages célestes nous sont envoyés. 1 Roi 19, 11-12 L'Éternel dit sort, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. C'est encore par un son doux et subtil que Dieu parlait à ses enfants. Il y a des gens qui cherchent à connaître à quelle distance exacte se trouve le ciel. Nous savons une chose, c'est qu'il n'est pas tellement éloigné que Dieu ne puisse de là entendre nos prières. Je ne crois pas que depuis la chute, une seule larme ait été versée sur un péché sans que le Seigneur en ait tenu compte. Notre Dieu n'est pas à une si grande distance de notre terre que nous ne puissions nous approcher de lui. Si, à cette heure, un soupir monte d'un cœur troublé, il entend ce soupir. Si un cri sort d'un cœur brisé à cause de son péché, il entend ce cri. Il n'est pas loin de nous. Son ciel n'est pas tellement élevé que le plus petit enfant puisse en trouver le chemin inaccessible. Nous lisons 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Lorsque j'étais à Dublin, on me parla d'un homme qui venait de perdre son petit garçon. Cet homme ne s'était jamais occupé, jusque-là, de la vie à venir, absorbé qu'il était dans les affaires de ce monde. Mais quand son unique enfant mourut, son cœur de père fut brisé. Chaque soir, en rentrant, il s'enfermait dans sa chambre pour chercher ardemment dans sa Bible tout ce qu'il pouvait y trouver sur le ciel. Il voulait savoir où son enfant était allé, disait-il. Je trouve que c'était là un homme plein de sens. Je pense qu'il n'existe pas une seule personne qui n'ait vu mourir quelques parents ou de chers amis. Fermerons-nous cette Bible aujourd'hui ou bien la consulterons-nous pour apprendre où ils sont allés? Je lisais dernièrement qu'un pasteur avait perdu l'un de ses enfants. Il avait accompagné bien des convois funèbres, il avait apporté à beaucoup d'affligés les consolations de l'Évangile, mais cette fois le fer avait pénétré dans sa propre âme. Un de ses collègues était venu officier à sa place au convoi funèbre. Quand il eut fini de parler, le père se leva et se tint debout auprès du cercueil. Il dit que lorsqu'il était arrivé dans cette église quelques années auparavant, il regardait l'autre bord de la rivière, sans prendre aucun intérêt aux personnes qui y habitaient, car elles n'appartenaient pas à sa paroisse et n'étaient que des étrangères pour lui. Quelque temps après, sa fille, s'étant mariée, alla demeurer au-delà de la rivière. Dès ce moment, il s'était intéressé aux habitants de cette contrée et il regardait chaque matin, en se levant, la maison de sa fille, qui était sur l'autre bord. Maintenant, ajouta-t-il, une autre enfant m'a été enlevée, elle a traversé une autre rivière, et le ciel me semble plus précieux et plus près de moi que jamais. Mes amis, croyons ce que nous dit ce bon vieux livre, soyons convaincus que le ciel n'est pas un mythe, et préparons-nous à aller y rejoindre les bien-aimés qui nous ont devancés. C'est ainsi seulement que nous pourrons obtenir la consolation que nous cherchons? À la recherche d'une meilleure patrie. Quelle a été et quelle est encore l'un des plus ardents désirs du cœur de l'homme? N'est-ce pas de trouver une place meilleure, un lieu plus agréable que celui où il vit? Ce lieu, il peut le rencontrer s'il le veut, en regardant, non en bas pour l'y chercher, mais en haut. À mesure que les hommes acquièrent plus de connaissances, ils rivalisent de luxe pour embellir de plus en plus leur demeure, mais la plus élégante de ces demeures terrestres n'est qu'une grange vide en comparaison de celles qui nous sont réservées dans les cieux. Vers quoi tendent nos désirs quand notre vie arrive à son déclin? N'est-ce pas vers quelque doux abri bien tranquille, une maison où nous pourrons jouir, sinon d'un constant repos, du moins des avant-goûts du repos éternel? Qu'est-ce qui poussa Christophe Colomb à traverser les mers occidentales inexplorées, sans savoir le sort qui l'attendait, si ce n'est l'espoir de découvrir un beau pays? Nos pères, chassés de leur terre natale, par la persécution, osèrent affronter une côte sauvage hérissée de récifs, dans l'espoir de trouver au-delà des terrains fertiles et une patrie libre où ils trouveraient le repos et adoreraient Dieu en paix. Le chrétien a une espérance à peu près semblable, seulement le ciel qu'il désire n'est pas pour lui un pays inexploré, ni qui possède rien de ce qui attire vers les choses de la terre. Peut-être la faiblesse seule de notre vue nous empêche-t-elle de voir les portes des cieux toutes grandes ouvertes et celles de nos oreilles d'entendre les joyeuses volées des cloches célestes? Que de sons autour de nous que nous ne pouvons saisir! Que de brillants soleils semés dans l'espace que nous n'avons jamais vus! Nous connaissons peu du ciel radieux et cependant, de temps à autre, quelques rayons de sa gloire arrivent jusqu'à nous. Je ne vis pas dans ces airs balsamiques, je n'ai pas vu de ces fleurs les beautés, ni tressaillis de ces divins cantiques, sur ces bords enchantés. De sa cité, les tours étincelantes n'ont ébloui jamais mes faibles yeux.